France Inter. Bonjour à toutes et à tous. Ils et elles sont nés à la fin des années 90, ont grandi en tenant dans leurs mains un téléphone portable, une révolution numérique qui a entraîné une révolution sexuelle auprès de ces jeunes âgés de 18 à 28 ans. Sexualité, désir, quête d'amour, que signifient ces mots pour eux? Comment la pornographie a bouleversé les codes de la séduction, le rapport au corps également? Comment le mouvement MeToo a souligné l'importance du mot consentement? Et le couple est-il encore un modèle pour eux? Autant de questions que nous nous posons collectivement en tant que parents, grands-parents, frères ou sœurs des jeunes de cette génération. On attend vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ainsi que vos notes vocales sur l'application de Radio France. Vous pouvez également réagir par message sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le mercredi 4 juin, vous écoutez France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Eva Rock.
Comment avoir un orgasme? Je n'ai pas la réponse à cette question, parce que c'est différent pour tout le monde en fait, et qu'il y a mille façons de l'atteindre, mille endroits de ton corps avec lesquels tu peux atteindre l'orgasme. Donc voilà, le potentiel orgasmique, c'est vraiment en fait prendre en considération toute la personne dans son entièreté, toutes ses expériences, ses envies, son corps, son fonctionnement, et trouver ce qui va la faire kiffer le plus en fait, vraiment lui faire connaître des sensations cool et faire qu'elle soit vraiment bien avec sa sexualité.
Extrait d'une interview de Léa dans le compte Instagram Merci Beaucoup, compte 250 000 abonnés. Avant de débuter cette émission, il me semble, chers auditeurs et auditrices, important de préciser deux points. D'abord, vous allez entendre un grand nombre d'anglicismes. Ce sont des termes en lien avec notre sujet, la sexualité, et qui n'ont pas systématiquement d'équivalent en français. Et ensuite, vous allez également entendre des mots crus. Alors, c'est pas par provocation, mais notamment parce que la façon dont la génération Z parle de sexe est plutôt directe, cash, comme on dit, parfois choquante. Donc je préférais vous alerter. Bonjour Charline Vermont.
Bonjour Eva.
Vous êtes sexothérapeute, formatrice en santé sexuelle. Vous enseignez à la Sorbonne et vous faites régulièrement des conférences sur la sexualité. Vous avez un compte Instagram suivi par 800 000 personnes. Le compte est intitulé Orgasme et moi. Vous êtes l'autrice avec Juliette Mercier de deux livres. Ce sont des guides absolument formidables. Corps, amour, sexualité. Alors il y a un tome pour les adultes et un tome pour les plus jeunes, pour les enfants. Et je crois que vous vouliez nous alerter sur autre chose aussi.
Oui, quelque part un troisième. Trigger warning, je pense. Oui.
Un anglicisme.
En réalité, un troisième avertissement, du coup, on dirait en français. Quand on va parler de sexualité, on va parler de consentement, qui est un pilier essentiel, mais également de son pendant négatif, dramatique, les violences sexuelles. Alors, il est possible qu'au cours de cette émission, les propos qu'on tienne puissent vous mettre mal à l'aise parce que ça vient raviver une expérience, un trauma que vous avez vécu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à éteindre, vous protéger. Voilà, c'est vous l'essentiel.
Merci beaucoup pour cette alerte et vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez contact avec ces publics-là. À vos côtés, Justine Briquet-Moreno. Bonjour Justine.
Bonjour Eva.
Vous êtes journaliste au magazine Elle et vous venez de publier un livre édité chez Flammarion, Les Cobayes, enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans. Alors il y a quelques jours, on a beaucoup parlé sur cette antenne de la dernière étude menée par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, concernant la sexualité des jeunes après MeToo. Vous proposez une autre approche du sujet, complémentaire. Vous avez longuement rencontré 50 jeunes qui ont accepté de répondre à toutes vos questions, ou presque, et c'est absolument passionnant, vous allez nous raconter. Puis avec nous, une voix de France Inter. Bonjour Marie de Breuer.
Bonjour.
Vous êtes humoriste, on vous écoute tous les jours dans l'émission de l'ami Mathieu Noël Zoom Zoom Zen, c'est sur France Inter, et vous êtes aussi autrice avec Lucie Macaroni d'une BD. Alors vous en aviez déjà proposé une qui s'appelait Ne jamais couler, c'était en 2023 aux éditions Le Duc Graphique, et bien on ne change pas l'équipe qui gagne.
Exactement.
Voilà, on sort une autre BD chez le même éditeur. Et ça s'appelle une BD qui parle de cul.
Voilà.
C'est le titre et c'est très réussi.
Hein.
Et c'est la sortie, Marie, concomitante de votre bande dessinée et de votre enquête, Justine Briquet-Moreno, qui nous a donné envie de faire cette émission. Et puis également avec nous dans ce studio, Julien Bisson. Bonjour Julien.
Bonjour Eva.
Vous arrivez avec une nouvelle chronique, ne dites rien pour l'instant, ma vie de parent, mais on a hâte de vous entendre. Justine Briquet-Moreno, quand j'ai reçu votre livre, j'ai été très surprise du titre, ce mot, les cobayes. Pourquoi vous avez choisi ce terme-là?
En fait, le titre ne m'est pas arrivé forcément en tête au début du livre, mais plutôt à la fin, à force d'entendre en fait tous ces témoignages de jeunes, j'ai été marquée par l'irruption en fait du numérique dans leur vie et à quel point ils avaient quand même été une génération cobaye en fait par rapport à l'invasion du numérique dans nos vies. Le terme de cobaye, par exemple, c'est une jeune femme de 23 ans aussi qui me l'a cité dans un de ses témoignages. Elle me disait voilà qu'elle avait la sensation des fois d'appartenir à une génération cobaye, une génération test, qui aurait un peu essuyé les plâtres au niveau de la pornographie notamment, parce que comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle a consommé énormément de pornographie pendant son adolescence et elle a eu la sensation après coup, après avoir pris du recul et s'être informée, de pas avoir été forcément suffisamment protégée aussi, ouais. Par ces représentations qui peuvent être quand même, on le sait, assez normatives, violentes, dégradantes.
On va en reparler bien sûr, ouais. C'est-à-dire que c'est une génération qui est coincé à la fois entre cette culture de la pornographie et aussi la révolution MeToo, où on prend plus soin de son corps et où la parole s'est libérée aussi, c'est ça ? Ils sont pris dans cet étau-là ?
C'est pour ça que c'est aussi une génération paradoxale, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tiraillée entre des injonctions complètement contradictoires et qui ne vont pas forcément ensemble. Et effectivement, l'influence de la pornographie, moi, je l'ai vue partout dans les témoignages des jeunes quand ils me racontent la réalité de leurs relations intimes. Et les questions même qui se sont posées avant même leur première fois, elles sont très crues, elles sont particulières. Enfin, je me souviens, par exemple, d'une sexothérapeute qui était active sur les réseaux sociaux, donc il y avait un compte comme Charline, et qui avait reçu, par exemple, une question d'un jeune qui lui demandait « Est-ce que je dois mettre la main sur la tête de ma partenaire le jour où elle me fera une fellation pour la première fois ?» C'est vrai que c'est des questions qui sont quand même très crues et particulières. Et c'est sûr que les générations précédentes n'avaient peut-être pas toutes ces questions en tête. À leur âge.
On va y revenir sur tous ces questionnements. Vous évoquez beaucoup de problématiques dans ce livre, Justine. Des problématiques dont vous parlez aussi, Marie de Breuer, dans cette BD. Vous avez une conversation notamment avec une sexologue dans votre bande dessinée, Claire Alquier. Et il y a une chose qui m'a marquée. On comprend dans la conversation que vous avez avec elle qu'il y a pour votre génération, pour la génération Z, l'obligation d'avoir une sexualité.
Ouais, c'est ce qu'elle me raconte. Alors moi, je suis bord milléniaux quand même. Je suis pas
vous êtes jeune encore.
Voilà, j'ai 30 ans. Mais disons la petite trentaine et les vingtenaires. Mais je pense que l'obligation à la sexualité, pour le coup, est un truc qui n'est pas générationnel. J'ai l'impression qu'on est quand même passé de l'obligation conjugale où il faut avoir une sexualité pour être un couple qui va bien, ou alors on va pas avoir de sexualité mais dire qu'on en a une publiquement, ou dans les conversations entre potes, nous on fait l'amour 2-3 fois par semaine, et puis en fait, pas du tout. Et en plus de ça, on s'en fout que vous fassiez l'amour tant de fois par semaine, par mois, par an, et du coup, Claire me disait que c'était une des raisons pour lesquelles il y avait des consultations, c'était vraiment un problème de régularité, et donc il faut se forcer, quoi, faut y aller.
Ouais.
Alors que, non.
Il y a cette notion de performance, en fait.
Ouais. Hein,
on entend dans votre témoignage, et avec la pornographie, c'est aussi ça, Charline Vermont, il y a une sexualité performative qui se met en place avec cette nouvelle génération.
Oui, alors moi j'aimerais un tout petit peu nuancer, oui. Notamment rebondir sur ce que tu viens de dire, Marie. C'était hyper intéressant d'avoir les chiffres de l'enquête CSF Inserm en décembre 2024, et notamment sur est-ce que vous avez fait l'amour, au cours des 12 derniers mois. Moi, en fait, il y a un chiffre que j'aimerais mettre en avant, là. Il y a 80% des femmes qui ont dit avoir fait l'amour effectivement au cours des 12 derniers mois, et chez celles qui n'ont pas eu de rapport au cours des 12 derniers mois. On leur a dit, et comment vous le vivez ? Et elles sont 87% à dire
qu'il n'y a aucun problème.
Aucun problème. Moi, je vais très bien. Donc, il faut nuancer en fait cette injonction au rapport à la sexualité. Je pense que voilà, c'est beaucoup plus effectivement complexe que ça.
Alors, c'est ce que vous racontez, Marie de Breuer.
Oui,
parce
c'est
que,
complètement mon
voilà,
témoignage.
C'est à la fois sur l'abstinence. Le terme abstinence, il est partout dans vos œuvres, dans vos livres, dans votre bande dessinée et aussi dans votre livre, Charline Vermont. C'est aussi ça que vous vouliez raconter, en fait.
Moi j'ai eu, en plus de ça, à la période où on est censé grave s'amuser parce qu'on n'est pas en couple et du coup on veut coucher avec plein de gens, moi j'ai eu des périodes de 3 ans et 1 an d'abstinence totale choisie, parce que ça peut être aussi subi, mais en mon cas c'était choisi, et c'était super. C'était super parce que justement ça m'a permis aussi de réfléchir à pas mettre la sexualité au centre de ma vie, quoi.
Ouais. Et Charline Vermont, je reviens sur cette idée de sexualité performative, parce que est-ce que c'est pas tout simplement la faute au numérique. Il y a du bon dans le numérique, notamment quand on suit votre compte, hein, par exemple. Mais est-ce que le numérique n'a pas poussé à cette notion de performance ?
En fait, je pense que le fait que les gens en parlent, on a tendance, et c'est hyper humain, à se comparer. Et je pense que vraiment, c'est un biais de comparaison. Moi, je pense que je ne supporte plus, d'ailleurs, cette fameuse stade de « mais quel est le rythme des autres ? Combien de fois on fait l'amour ? Enfin, ça devrait être combien de fois ?» J'ai envie de dire, ça commence à bien faire.
Ouais.
Tu vois, est-ce qu'on demande et vous alors, vous mangez combien de calories à chaque repas ? Enfin non, en fait, chacun mange en fonction de son appétit, de ses goûts, etc. L'objectif dans notre vie, c'est pas de prendre exactement ce qu'il y a chez le voisin et de faire exactement pareil. Je compare souvent la bouffe et le sexe parce que je considère que ça a quand même pas mal de comparatifs.
Alors attendez, parce que Marie dans sa bande dessinée, elle revient sur cette comparaison. Vous revenez sur cette comparaison avec la bouffe ?
Oh, je sais plus ce que j'ai écrit dans ma BD.
Si, parce qu'il y a c'est le personnage qui...
Moi je dis, c'est ça.
Et vous lui dites, mais...
J'ai un petit personnage qui s'appelle Titouan dans ma BD, qui est un peu agaçant et qui dit que le sexe, c'est comme manger, quoi.
C'est vital.
C'est nécessaire, c'est vital. Ce à quoi je réponds, absolument pas, puisque si je ne mange pas, je décède. Si je
et personne n'est jamais décédé de ne pas avoir fait l'amour, on est bien d'accord.
Exactement.
On va essayer justement de d'apaiser toutes ces injonctions, toutes ces notions de performance quand on parle de sexualité, évidemment. Julien Bisson, dans quelques minutes. Restez avec nous, je vous en supplie. On vous laisse la parole. Quel est le thème de la chronique de ce matin ?
Eh bien, vous parliez des anglicismes qu'on va évoquer pendant cette émission. Oui. Il y a un anglicisme que je vais peut-être ajouter, c'est the talk. À quel moment avoir the talk avec les enfants ?
C'est-à-dire la conversation où on parle de sexualité avec son
enfant.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Arrête, merde, maquet.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Tu m'étranglais, j'arrivais plus à respirer.
Je croyais que t'aimais ça ?
Putain, pourquoi j'aimerais ça ?
Je savais pas, Cassie, je suis désolée.
Je m'y attendais pas, c'est tout.
Cassie, je suis sincèrement désolée. Je te demande pardon. Je t'aurais jamais fait de mal exprès.
Refais plus jamais ça. Ou alors, tu me demandes d'abord.
Extrait de l'excellente série Euphoria, une scène marquante et choquante, celle d'une strangulation par le petit ami d'une des héroïnes lors d'un acte sexuel. Nous parlons sexualité, amour et corps au sein de la génération Z dans Grand Bien vous fasse. Ce matin, nous sommes en compagnie de l'autrice et humoriste Marie de Breuer, la journaliste Justine Briquet-Moreno et la sexologue Charline Vermont. Justine Briquet-Moreno, si on assiste à une libération de la parole, notamment avec et grâce à MeToo, on constate aussi une libération des pratiques. On a fait exprès de mettre cet extrait dont vous parlez d'ailleurs dans le livre. La strangulation, c'est une pratique dont vous parlent les témoins que vous avez interrogés pour cette enquête.
Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai remarqué que les codes de la pornographie mainstream, des fois, ils avaient ruisselé un petit peu dans les pratiques intimes, dans la chambre à coucher des jeunes. Et effectivement, il y avait beaucoup de jeunes garçons qui, des fois, avaient pu évoluer entre-temps, mais qui me disaient effectivement qu'à l'adolescence, ils étaient persuadés qu'il fallait forcément étrangler une fille pendant un rapport intime et qu'elles aimaient ça et qu'elles attendaient ça d'un rapport sexuel. Donc c'est vrai que c'était quand même des témoignages qui étaient assez marquants. On voit qu'il y a quand même des injonctions qui ruissellent à travers la pornographie. Après, effectivement, le numérique, il apporte pas que du négatif, il apporte aussi beaucoup de discours positifs. On
Bien
le voit
sûr.
Notamment avec le compte de Charline et beaucoup d'autres comptes sexuels dont je parle dans le livre et qui donne aussi des clés de lecture en fait sur la sexualité qui sont beaucoup plus bienveillantes et qui commencent un petit peu à déconstruire en fait ces codes là. Et d'ailleurs j'ai pas envie de dépeindre cette génération comme une génération voilà qui n'est que biberonnée au porno, même si c'est le cas et ça fait d'eux des jeunes très paradoxaux, mais en même temps ils parlent de consentement à toutes les phrases et ils essayent un petit peu de déconstruire les codes qu'on leur a transmis. Et en cela je trouve que c'est une génération qui se questionne, qui s'interroge et qui essaie d'évoluer un petit peu des représentations qu'on a pu leur marteler quand ils étaient plus jeunes.
Est-ce que notamment les garçons que vous avez interrogés sur la notion de consentement, ça leur a permis de réfléchir aussi à des comportements qu'ils avaient eus précédemment, où ils se sont dit « là, c'était pas OK ».
Oui, et encore une fois, c'est le numérique des fois qui fait, qui les éveille. Je me rappelle d'un jeune homme qui me disait que c'était questionné sur le fait qu'il avait peut-être potentiellement eu un rapport non consenti, qu'il avait imposé un rapport à sa petite amie de l'époque, parce qu'il avait vu une publication sur Instagram qui avait dit « un non est un non ». Et il m'avait dit « cette phrase m'a vraiment marquée, m'a interrogée, et cette question elle est restée dans ma tête, et après j'ai voulu interroger mon ex-copine pour lui demander si vraiment à ce moment-là,
elle
quand j'ai
okay.
insisté, mm-hmm. quand elle m'avait dit non à deux reprises et que j'ai insisté et qu'on a eu quand même ce rapport, est-ce qu'elle s'était sentie forcée ?» ou pas. Donc, des fois, le numérique apporte aussi des conscientisations intéressantes aussi.
Charline Vermont.
Oui, moi, je merci du coup, Justine, pour ce regard. Et moi, j'aimerais insister sur le fait que entre le mot consentement, on comprend, bah oui, il faut demander à l'autre. Mais la réalité, c'est que les jeunes, comme tout le monde d'ailleurs, je pense que c'est pas que générationnel, ne savent pas exactement ce qu'est le consentement ou les différentes dimensions du consentement. Je rappelle très rapidement, mutuel, enthousiasme, libre, éclairé, spécifique, révocable à chaque instant. En fait, moi, quand j'arrive en amphi, que ce soit auprès de lycéens, auprès de grandes écoles, universités, je fais toujours un sondage. Je projette un sondage, je leur dis, je vais faire l'inverse de tous les autres profs, sortez vos téléphones. Voilà, j'ai un QR code qui scanne, ils répondent aux questions. Est-ce que vous avez déjà vécu des actes intimes sexuels non consentis ? Il y a toute une liste de questions. Également, pensez-vous avoir, vous, été l'auteur, l'autrice, en fait, d'actes intimes sexuels non consentis ? Et ensuite, je fais mon amphi sur le consentement et la prévention des VSS, violences sexistes et sexuelles. À la fin de l'amphi, je refais
le test.
Le sondage, exactement. Donc je refais à la lumière, à l'aune de tout ce qu'on a fait, vu et appris aujourd'hui, et des scénettes qu'on a faites ensemble, etc. Pensez-vous avoir vécu un acte intime ou sexuel non consenti ? Eh bien, chez les femmes, le taux double. C'est-à-dire, j'ai généralement la moitié des personnes qui ont vécu des actes intimes, qui n'ont pas conscience finalement d'avoir été victimes en fait de violences sexuelles. Et également le taux de pensez-vous avoir vous été l'auteur, à l'origine d'un acte.
Pareil, ça augmente.
Également augmente. Et là, de ce point de vue-là, je pense que je rejoins toutes les assos sur le terrain. On a globalement la moitié des personnes qui vivent des violences qui n'ont pas conscience d'en vivre. Et quand le Haut Conseil à l'égalité dit qu'il y a 37% des Françaises qui ont vécu des violences sexuelles au cours de leur vie, nous, on sait que c'est 75%.
Et vous en avez beaucoup d'ailleurs, Justine, qui vous ont répondu, qui ont été victimes de violences sexuelles. Vous avez 4 garçons, si je ne me trompe pas, je suis en train de rechercher mes chiffres. 11 filles et 4 garçons sur un échantillon de 50 personnes.
Sur l'échantillon. Et effectivement, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une jeunesse à deux vitesses sur ces questions-là. Parce que effectivement, dans les entretiens, je trouvais que quand même les jeunes femmes avaient une facilité à en parler dès le début, dès les premières minutes d'entretien. Elles allaient m'en parler comme quelque chose qui était quand même important à comprendre pour parler de leur vie sexuelle. J'ai été victime à un moment donné et ça a une importance, il faut qu'on en parle. Des fois, elles avaient même conscience que c'était leur premier rapport qui était non consenti. Donc ça, c'est fort, quand la première fois est un viol quand même. Donc oui, ça c'est vrai que sur les filles, en tout cas, avaient une facilité à le dire. Là où les garçons, je trouvais que ça arrivait beaucoup plus tard et qu'il y avait une conscience qui était moins éclairée, en fait, de ces sujets-là. Et je dirais que les garçons sont assez divisés sur ces questions quand même. On a vu le rapport du Haut Conseil à l'égalité en début d'année qui parlait d'une jeunesse polarisée entre garçons et filles. Moi, je l'ai vraiment remarqué, même si je n'ai pas envie de généraliser, qu'il y a aussi des garçons qui sont très éveillés sur ces sujets et qui essayent de questionner leur comportement. J'ai aussi rencontré des jeunes hommes qui avaient des discours assez sexistes, assez réducteurs, qui se plaignaient de ces filles qui parlent trop, qui vont trop loin en proférant des accusations, etc. Donc moi, j'ai senti quand même une fracture aussi dans cette jeunesse, notamment dans les couples hétéros. Ouais. C'était vraiment très fort là-dessus, sur le fait que garçons et filles, il y a une tension à ce niveau-là.
On va revenir sur cette dichotomie entre les couples homo et les couples hétéros. On a souvent entendu aussi cette phrase « demander le consentement, ça casse le délire ». Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Marie de Breuer,
Oui, je l'ai entendu. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode de mon podcast « Tchatcheuse », qui est sorti récemment. Je trouve que cette phrase, elle est aberrante, parce que peut-être violer quelqu'un, ça casse le délire plus que de poser la question, en fait.
Je peux poser ma punchline si ça casse l'ambiance, c'est qu'il n'y avait pas d'ambiance.
Mmh. Voilà. Voilà. Ah bah c'est très bien.
Et, et surtout, que c'est, il y a le oui c'est oui, non c'est non, peut-être oui, peut-être... Enfin, il y a les mots, mais il y a aussi l'attitude, il y a aussi... moi j'ai l'impression de m'être forcée beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'autre qui a imposé son désir, mais c'est moi qui ne me suis même pas questionnée de si j'avais du désir ou pas. Et du coup, bah ouais, en fait, c'est compliqué le consentement parce qu'on peut regretter après, parce que du coup, il faut, bah, vaut mieux trop parler, se poser trop de questions qu'après être traumatisé, quoi.
Ouais, bah, Marie, dans une BD qui parle de cul, vous nous faites rire beaucoup, mais moi, vous m'avez beaucoup émue, et notamment, il y a une page du livre qui m'a assez chamboulée, page 22, la page de gauche est toute noire. Et en écriture blanche, il y a ces mots « Automne 2015, on se marre, mais il y a une fois où, trois petits points, c'était vraiment pas marrant. » Et la page d'après, Lucie Macaroni vous dessine, vous semblez bouleversée, vous êtes au téléphone, alors on imagine avec une amie, vous n'arrivez pas à parler, mais vous dites quand même cette phrase « Je ne sais pas ce qui s'est passé ». Avec le recul, parce que c'était 10 ans, il y a 10 ans en arrière, c'est ça, ouais. C'était en 2015. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé?
Bah, c'est encore flou pour moi. Je sais que c'était un acte où j'avais pas envie, mais j'ai du mal à me souvenir exactement de quels mots étaient utilisés, quels machins. Enfin, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose dont je peux parler quand même de manière assez détachée. Et,
ouais.
Et aujourd'hui, tout va bien, etc. Du coup, je sais pas, entre une agression, un viol, je saurais pas mettre le terme exactement, mais en tout cas, ça a été vraiment déclencheur.
Ça a marqué une rupture.
Rupture. Et je sais que j'ai confronté le partenaire beaucoup plus tard en lui disant que j'avais pas envie. Et lui m'avait dit, mais si tu me l'avais dit, j'aurais compris.
Ah, vous avez réussi à lui en parler.
Et ouais. Mais c'était un peu une conversation un peu hasardeuse. Je sais pas pourquoi on s'est reparlé. C'est quelqu'un avec qui je suis pas du tout en contact aujourd'hui. Mais du coup, j'avais trouvé ça étonnant. Si tu m'avais dit, j'aurais compris que tu voulais pas du rapport. Et en même temps, j'avais l'impression que mon corps était assez explicite pour moi sur le moment, quoi. C'est, il y a un truc de quand on bouge pas ou quand on dit rien ou quand on n'a pas l'air de passer un bon moment, c'est peut-être qu'il y a un problème. Voilà.
Charline, on était jeunes.
Voilà, il y a tellement de choses. Déjà, je te crois et je suis hyper désolée que tu aies eu à vivre ça. Mmh. Et en fait, quand j'entends ça, je me dis toujours, quand on vous dit, la personne qui a l'initiative d'un acte intime ou sexuel doit, en fait, poser la question à l'autre d'une manière ou d'une autre. On peut avoir le langage de l'intime pour rendre cette demande beaucoup plus chaude, beaucoup plus cool, etc. Mais en même temps, et c'est ce que je dis, on est également dans une vraie difficulté, parfois, à poser un nom. Et moi, quand j'ai mes étudiants et étudiantes en face de moi, je leur dis, ne vous contentez pas de dire « Tiens, j'ai très envie de t'embrasser » ou « J'ai très envie de te toucher, est-ce que je peux le faire ?» Et n'hésitez pas à rajouter cette phrase. Et si t'as pas envie, c'est complètement OK, on verra plus tard. Voilà, laissez ouvrir la porte de sortie.
Dans ce que vous dites, je comprends que les jeunes n'ont pas forcément les mots qu'il faut. Vous le dites aussi, hein, Justine, d'ailleurs, dans l'enquête. Hein. On n'a pas toujours les mots. On ne sait pas comment s'exprimer. C'est-à-dire que c'est le paradoxe de cette génération qui a été qui est surinformée, hyper informée, et en même temps, dans l'acte, quand ça arrive, c'est pas si facile que ça.
Oui, moi je dis que c'est une génération qui des fois manque de mots sur l'oreiller parce que effectivement la sexualité c'est une conversation de chaque instant et le consentement il a droit d'être interrogé à chaque minute du rapport sexuel et des fois ils en ont pas conscience parce que effectivement comme ils ont ces angoisses de performance etc, ils sont concentrés sur la performance et en fait moi je dis que des fois dans certaines, je dis pas que tous les jeunes ont été dans ce schéma mais certains effectivement ils avaient oublié finalement le partenaire en face. Ils ne s'écoutent pas, ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ça crée des incompréhensions et ça crée un manque de mots qui débouche sur des violences sexuelles, malheureusement.
Charline Vermont.
Oui, en fait, la communication sur l'intime, c'est juste quelque chose qu'on ne nous transmet pas, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, en fait, dans les films, quand on regarde un film, il y a cette espèce de... Il y a la magie du moment, la télépathie fonctionne. En gros, quand c'est magique, c'est le silence absolu. Donc, en fait, on grandit également avec cette croyance que quand tout va bien, on se parle pas, ce qui est littéralement exact, enfin d'une absurdité absolue. La télépathie ne fonctionne pas. Je ne peux pas deviner ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps. Alors certes, il y a le langage corporel dont tu parlais, Marie, mais il y a pas que ça. En fait, il y a plein de choses qui viennent se dénouer. C'est ne jamais que du sexe dans un échange, une interaction. Il y a évidemment toutes nos insécurités, tout l'amour, toute la projection. Bref, il y a mille choses. Il faut en parler et ce n'est pas. Alors certes, je pense que les jeunes, c'est encore plus dur parce qu'on débute. Mais en réalité, moi qui accueilli pendant longtemps des couples en thérapie.
C'est à tous les âges.
C'est à tous les âges, ouais, c'est extrêmement compliqué.
Et c'est pour ça qu'on tenait à faire cette émission, et c'est ce que je disais en introduction, ces questionnements qu'on a sur cette génération Z, ils nous concernent aussi, parce que je ne suis pas de la génération Z, Marie, ne riez pas. je suis la génération A, en fait. Non, mais parce que c'est aussi nos propres relations, on se re-questionne aussi sur notre sexualité, et puis c'est celle de nos neveux, de nos nièces, de nos enfants.
Elle est très réflexive, cette génération, elle nous pousse également à revoir, en fait, toutes nos bases, et je pense que, peut-être, j'aurais dû commencer par ça, mais il y a quand même un truc fondamental à retenir, c'est que la reproduction est instinctive, la sexualité s'apprend.
Oui.
C'est-à-dire, il y a tout un corpus de connaissances, donc de savoir être, de savoir faire, pour que chacun, chacune puisse vivre une sexualité à la fois safe, donc en termes de santé sexuelle, consentie, sans violence, et également épanouissante, en prenant du plaisir et sans douleur. Et bien, en réalité, il n'y a aucune génération qui a bénéficié
de tout ça,
de transmission, d'éducation à ce sujet, et donc pas plus la génération Z, qui en plus de ça, effectivement, a cette influence du porno qui vient quelque part, voilà, encore plus nous cristalliser des injonctions, des stéréotypes, etc., mais également toutes les générations, en fait.
Oui, exactement. Justine Briquet-Moreno, on en disait un petit mot, la notion de consentement. Est-ce que vous la percevez de façon similaire dans les couples homosexuels ou les couples hétéros ?
Non, effectivement, je trouve que l'incompréhension dont je parlais dans les couples hétéros, je l'ai moins perçue dans les couples LGBT. Notamment, par exemple, les jeunes femmes lesbiennes ou les personnes transgenres avaient un rapport beaucoup plus libre à la sexualité. Ils avaient des rapports sexuels qui sont moins codifiés, en fait, quelque part. Justement, l'injonction de la pornographie, elle a eu moins d'impact sur ces jeunes-là, en tout cas, des témoignages que j'ai pu recueillir. Et effectivement, c'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes dynamiques. Même si, par exemple, si je dois parler des hommes qui ont des rapports avec les hommes, là, c'est un peu différent. Dans la communauté gay, j'ai pu avoir accès à des témoignages de violences sexuelles, oui, clairement, parce que c'est d'autres codes, en réalité. Mais effectivement, on peut voir une différence.
Je voudrais vous faire écouter un extrait de la série britannique Adolescence. Je la trouve extrêmement importante dans le débat que nous menons. C'est l'histoire d'un garçon qui est âgé de 13 ans, qui est arrêté après le meurtre d'une de ses camarades. Alors, dans la scène que vous allez entendre, il est devant une psy et il décrypte les emojis qui sont laissés en commentaire, vous savez, sous les posts Instagram.
Ces petits haricots, par exemple, c'est bien des haricots, c'est ça ?
Ça veut dire qu'elle pensait que je faisais partie d'un de ces groupes Internet. Ceux qui disent que les meufs veulent pas de nous et nous calculent pas. Des trucs d'incel et tout ça. Alors je suis allée voir, mais c'était pas mon truc.
Et ils veulent dire quoi, les autres ?
Ils veulent l'amour, mais il l'aura pas. Et ça, c'est 80-20.
Ça veut dire quoi, 80-20 ?
Ça veut dire que 80% des meufs sont attirées par 20% des mecs. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec eux.
Alors cette série, elle parle de toxicité masculine, de cyberharcèlement, et on y entend aussi le mot « incel ». Alors, qui veut bien essayer de traduire en français le terme « incel » ?
Ça veut dire tout simplement « célibataire involontaire », et en fait c'est une frange du masculinisme qui véhicule l'idée, notamment sur les réseaux sociaux, auprès des jeunes hommes, comme ce jeune homme dans cette série, que les filles sont quelque part un peu les ennemis, et il y a une forme de sexisme revendiqué, de virilisme dans leur discours, et ils parlent des filles comme d'un chiffre d'affaires, tout ça est extrêmement normatif et violent. Et j'en parle dans mon livre parce que pour moi c'est un petit peu une toile de fond qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, qu'ils ont dans leur téléphone, des injonctions qui vibrent toute la journée dans leur poche.
Vous parlez
de
comptes TikTok qui sont absolument horribles. Hein.
Oui, ouais. Effectivement, c'est les comptes TikTok masculinistes, incel, etc., où effectivement, il y a des discours sur les filles qui sont assez affligeants. Et moi, même si je remarquais que quand je posais la question, les garçons avaient conscience que c'était pas forcément OK d'affirmer haut et fort « oui, je regarde ces contenus, et alors ?» Je remarquais qu'en tout cas, il y avait des codes, il y avait des façons de parler, des termes. Par exemple, le terme « elle, c'est une michto », etc. Plein de choses comme ça.
Michto, vous pouvez le traduire, michto ?
Alors, michto, c'est une fille qui serait intéressée par l'argent de son partenaire et donc qui aurait des rapports intéressés, en fait. Donc finalement, c'est l'idée assez commune que toutes les femmes sont vénales, finalement.
Vous l'avez dit poliment. Ouais, on avait compris.
Mais effectivement, voilà, et ça c'est des codes qu'ils ont dans leur, sur leur téléphone. Et moi je l'ai remarqué en fait que dans le discours, je pouvais remarquer qu'effectivement, des fois, j'avais des termes comme ça qui revenaient. Par exemple aussi, misère sexuelle. Voilà, ça c'était un terme qui est revenu quand même dans les témoignages des jeunes hommes. Et ça, on sait que c'est complètement issu des sphères masculinistes et que c'est une pure invention, quoi. C'est cette idée que finalement, les garçons souffrent de misère sexuelle et les filles, elles, sont, voilà, ont accès à toute la sexualité qu'elles veulent tant qu'elles sont partantes. Voilà, comme s'il y avait une inégalité, finalement, dans les rapports.
Alors que, oui, bon, voilà. On a peut-être accès plus facilement à de la sexualité, mais quelle sexualité aussi,
quoi. Oui, c'est ça, c'est la nature et la qualité de l'échange, en fait. Bah, mais c'est ce que vous racontez dans votre BD aussi. C'est aussi ça, c'est prôner une sexualité plus bienveillante, j'allais dire, pour utiliser un peu un mot galvaudé, mais enfin, c'est ça, quand même.
Ouais, plus bienveillante, plus sympa. Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'autre mot mieux que bienveillant.
Ouais. Chouette, vous dites chouette au bout d'un moment.
Moi, je dis chouette.
Mais oui, mais je trouve que c'est un très joli mot, ouais. On a parlé de la série Euphoria, Charline Vermont. On pourrait citer d'autres séries comme Sex Education, on a parlé d'adolescence, etc. On pourrait en citer vraiment des dizaines. Hein. Est-ce que la représentation de toutes les orientations sexuelles, d'ailleurs, dans la fiction, elle a permis aux jeunes, à cette génération, à la fois de se reconnaître et peut-être de mieux se connaître?
Ah, je pense que oui. Ouais. Un grand oui, en fait. Alors, je ne sais pas quel âge voilà, on a mutuellement, mais moi, j'ai grandi dans une génération où la seule personne LGBT, il s'appelait Gérald, et c'était, tu sais...
Ah, mais oui, dans Les filles d'à côté,
exactement,
là, c'est ça.
Alors,
une série AB qu'on regardait sur TF1.
Production. Voilà. Il faisait l'accueil, tu vois, c'était un grand
bodybuilder
qui faisait l'accueil de la salle de sport. Et en réalité, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux parents qui s'inquiètent que je parle d'identité et d'orientation à leurs enfants, à leurs ados, au lycée, n'est-ce pas ? Je leur dis, bah, vous savez, c'est pas parce que je parle d'identité, d'orientation que vos enfants vont devenir gays, devenir trans. C'est une vraie peur. En fait, je pense qu'il est important, en fait, aussi de parler au micro, parce qu'on a quand même un programme qui arrive à la rentrée et ça fait quand même pas mal de remous. Non, moi j'ai regardé cette série étant adolescente, et non, ça ne m'a pas rendue hétéro, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on a des représentations effectivement supérieures, et d'ailleurs, quand on le regarde, eh ben, l'enquête CSF Inserm, on a quand même plus de 50% des jeunes femmes de 18 à 29 ans qui soit, effectivement, sont attirées par des partenaires de même genre, quel que soit leur genre, qui sont asexuelles ou qui ont songé à une transition, tout ça, cumulé, ça fait 51%.
Oui, elles n'arrivent pas à dire qu'elles sont hétérosexuelles. Elles ne se reconnaissent
exactement,
pas dans ce mot-là.
Aujourd'hui, quand même, on a 51% des jeunes femmes de 18 à 29 ans qui sont effectivement queer. Alors, effectivement, je pense que nos représentations qui sont largement multipliées, eh ben, elles ont participé à cette affirmation finalement de bah non, je suis pas strictement cisgenre hétéro.
On va continuer à parler d'amour, évidemment, de recherche de l'amour grâce à vous. Mais il est 10h41, Julien Bisson boit un petit verre d'eau et on va vous donner la parole parce que vous vous posez aussi une question sur la sexualité.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Julien, interrogation déterminante, parce que comment avez-vous abordé les questions de désir et de sexualité avec votre fils, qui a 9 ans ?
Eh bien, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je dois bien avouer, on parlait de représentation, eh bien que ma réalité a été un peu déformée par le cinéma américain qui n'arrête pas de nous mentir sur la parentalité. Ça commence par l'accouchement, et ces bébés bien roses qui sortent après 30 secondes de respiration haletante façon petit chien. Et ça continue dans les rapports avec les enfants, et notamment ce concept typiquement US qui revient à travers de nombreux films, The Talk.
Alors qu'est-ce que c'est que ça encore ?
Eh bien, The Talk, dans le cinéma et donc dans la culture américaine plus largement, c'est la grande conversation que les parents sont censés avoir un jour ou l'autre avec leurs enfants pour leur expliquer les grands mystères de la sexualité. On voit donc des parents se dire que, ah, hélas, il est déjà temps d'y passer, en découvrant leur ado devant un film X, par exemple. Ou bien on voit des jeunes raconter le malaise autour de la table de la salle à manger quand leurs parents se sont lancés avec toute la maladresse possible. Bref, on découvre cette institution, ce rite de passage redouté qui consisterait à tout déballer d'un coup pour ouvrir à votre enfant les portes d'un continent nouveau.
Et ça, ça vous paraît pas très bien ?
Bah, c'est surtout assez mensonger.
Ouais.
Déjà parce que si vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir cette discussion avec votre enfant de 15 ans, je crains de vous annoncer que vous avez quelques années de retard. Et puis, il y a quelque chose de trompeur dans l'idée de la conversation comme si ce devait être un moment unique de révélation où votre enfant découvrirait tout ce qu'il a toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Ben d'abord parce que ce n'est pas votre rôle de tout lui dire. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il trouvera d'autres médiateurs possibles pour lui expliquer ce que sont l'enclume et la cravate de notaire. Mais surtout, ce n'est pas une conversation que vous aurez avec vos enfants sur le sujet, mais plusieurs, des dizaines s'il le faut, et à tous les âges si besoin.
Et alors selon vous, concrètement, ça commence quand ? À quel âge ?
Ben, ça peut commencer très tôt. Dès que surgit la question primordiale, comment on fait les bébés ?
Eh oui.
Ça, c'est vers des 3 ou 4 ans. Et alors après, à chacun ses images, bien sûr, mais sachez que les métaphores ne durent pas très longtemps et viennent souvent se fracasser sur le mur de la réalité. Moi-même, j'étais très fier d'avoir expliqué à mon fils que les bébés venaient de la rencontre de deux graines, l'une à l'intérieur du ventre de la maman, l'autre d'une graine sortant du sexe du papa. Jusqu'à ce qu'il me demande, vers 6-7 ans, comment le papa faisait sortir sa graine et est-ce que je pouvais lui montrer ? Moment de solitude. Ou la formule « tu comprendras ça plus tard » est encore votre meilleur allié. Mais dans l'ensemble, je suis assez partisan de l'idée que si votre enfant est assez mature pour se poser des questions, il l'est aussi pour avoir des réponses. Faites-lui confiance. D'autant que, même sans rien dire, on en dit déjà beaucoup. Un silence, un malaise, une pirouette gênée, tout ça renvoie à l'enfant l'idée qu'on touche là à un sujet tabou, voire honteux. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour l'éviter. Mais parler de sexe, ce n'est pas seulement parler de reproduction. Il y a d'autres conversations qu'il va revenir aux parents d'engager eux-mêmes très tôt, sur le consentement, on en a parlé, qui a droit ou pas de voir ses parties intimes, sur l'hygiène corporelle, les érections, les règles. Puis vont venir plus tard des discussions sur la masturbation, la pornographie et bien sûr la contraception. Là, on est déjà du côté des pré-ados, voire des ados. Et à cet âge-là, il ne s'agit pas seulement de parler doctement, mais surtout d'écouter, sans hausser un sourcil, sans trahir sa propre gêne, mais juste laisser son enfant poser ses mots pour comprendre à quel endroit il a besoin d'être rassuré. Et puis, au milieu de tout cela, doit venir un jour, plutôt tôt que tard d'ailleurs, où il faudra aussi dire que la sexualité, ce n'est pas qu'un risque ou une affaire de précaution, mais aussi quelque chose de vivant, de joyeux, de partagé. Ne pas seulement parler de reproduction ou de contraception, mais parler aussi de plaisir. Plaisir qui est quand même le premier mot qu'on peut généralement associer au sexe, et souvent le dernier qu'on ose prononcer quand il s'agit d'en parler à nos enfants.
Alors, il y a Charline Vermont qui fait un grand signe avec ses pouces.
Non, mais je te remercie, t'as fait le sommaire de mes livres. Et je te remercie de finir aussi sur cette note, en fait, qui rappelle que l'éducation à la sexualité ne peut se limiter à l'approche par les risques. C'est-à-dire, notre génération, effectivement, on a vu attention, il y a ces risques de grossesse, violence, etc. Non, en fait, moi, quand j'arrive au lycée, la première chose que je dis à mes lycéens, lycéennes, alors on va parler de plein de choses aujourd'hui, mais en fait, si on en parle autant, c'est pourquoi ? C'est parce que potentiellement, c'est une énorme, plus grande source de plaisir qu'on peut avoir sur Terre pour se connecter à soi, se connecter aux autres, et voilà, et on va aussi en parler.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Lors d'un rapport sexuel, c'est une obligation pour la fille de passer par l'étape fellation, ouais. Mais c'est loin, mais loin, loin, loin d'être une obligation pour les garçons de passer par la casse cunie.
Et on croit que c'est vraiment la première chose à faire en tant que fille, sucer le mec. Alors que, prends ton temps, quoi. Enfin, ça fait peur, hein, au début de se retrouver devant ça, quoi, devant cet engin. On sait pas trop comment faire, on sait pas trop comment le toucher. Et ça doit être pareil pour le garçon. Mais la fille, elle a moins le droit de dire non, j'ai pas envie.
Extrait d'un programme très bien réalisé à voir sur le site arte.tv qui s'appelle Préliminaire. Et encore une fois, pardon pour les mots crus que vous venez d'entendre, mais c'est la façon dont les jeunes s'expriment aussi quand on les interroge sur leur sexualité. Je voudrais vous lire un message qu'on vient de recevoir de Louis. Il nous dit « J'ai 25 ans et je ne supporte plus la façon dont nous nous comportons entre nous. La plupart du temps, c'est « je te prends pour mon acte sexuel » et puis « je te ghoste ». Alors « je te ghoste », je le fais en français, c'est « je t'oublie » en fait, hein, « je t'ignore totalement ». On doit passer à la personne suivante sans explication. Ce phénomène cynique et très présent dans la communauté gay, exacerbé notamment par les applis de swipe comme Grindr ou Tinder, et je remarque que beaucoup de personnes sont exclues de ce système violent et ils s'isolent. Marie Dubreuil, vous en parlez beaucoup de ces applis de rencontres, ouais, que vous avez testées.
Moi j'ai beaucoup rencontré sur les applis de rencontres, même en majorité je crois,
ouais.
Parce que je pense que ça m'a aussi débloqué un truc de dans la vraie vie, quand je fais des rencontres je suis la bonne copine, là il y a quand même un objectif commun qui est des rencontres sexuelles ou amoureuses, du coup ça me libère libérer de un peu ce poids-là. Et du coup, j'ai beaucoup fait les applis de rencontre. Et avec les applis de rencontre, arrive tout un truc de violence dans la non-considération, quoi. On arrête de répondre aux messages, on fait un date, on se rappelle plus. Et ça va dans les deux sens. Hein. Moi aussi, je pense que je l'ai déjà fait de ghoster des gens. Oups, désolé. Je suis désolée.
Et c'est donc une violence psychique qui s'accumule aussi à parfois à la violence physique qu'on peut ressentir.
Bah ouais, il y a un truc de se sentir comme un objet, et puis de pas avoir d'explication. Moi, je me suis beaucoup posé la question parce que ma BD, elle parle de cul, comme son nom l'indique, mais elle parle aussi de célibat. Moi, j'ai été célibataire toute ma vie avant. Là, j'ai une relation en ce moment. Donc, tout ce que je dis dans ma BD est faux. Non, j'ai vécu ma première relation à 30 ans. Donc, avant ça, à chaque date, il y avait toujours un espoir, quoi. Peut-être cette fois-ci, ça va marcher, ça va être un peu sur la durée. Et d'ailleurs, j'ai eu des relations avec des hommes qui étaient des partenaires sexuel sur de nombreux mois ou voire années, mais ça s'est pas conclu par des relations amoureuses. Et bref, que ce soit du ghost ou de la relation qui échoue, qui mène pas à ce que je veux, etc., je me posais tout le temps la question de c'est quoi mon problème. Ouais. Et donc un ghost, un like supprimé, un mec avec qui on échange quelques mots puis après son profil disparaît, je me disais merde, c'est quoi mon problème, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi j'ai... Et puis en fait c'est pas... c'est un peu égocentrique, j'ai pas un problème en particulier, c'est globalement les gens font ça. Il faut arrêter de faire ça, ouais. Arrêter de ghoster les gens.
Charline Vermand, moi, ça me touche vraiment ce que dit Marie de Breuer, parce que je ressens toute cette pression qu'on peut exercer aussi sur cette génération-là. Alors peut-être que c'est sur les autres générations aussi, mais là, j'ai quand même l'impression qu'avec les applis de rencontre, on rentre aussi dans une consommation qui pose des questions en termes de santé mentale.
Exactement. En fait, merci d'avoir utilisé le mot violence tout de suite. En réalité, c'est fou parce que sur le violentomètre, il n'y a pas le ghosting, etc. Mais la réalité, c'est qu'en termes de vécu, les ghostings et les ignorances comme ça, en fait, ça va venir mais complètement détruire en fait l'estime de soi de la personne, et on va se retrouver vraiment avec des personnes, et on l'a vu dans la communauté gay, il y a eu un suicide d'un garçon qui avait laissé un message en disant qu'il en avait marre d'avoir été ghosté, traité comme de la merde par ses partenaires successifs. Voilà, et en réalité, on a toute une génération, et là je rejoins Justine, le mot les cobayes, c'est vrai, c'est-à-dire on n'a pas aujourd'hui d'apprentissage, et ça devrait arriver au lycée, de comment on fait également sur le numérique pour être des personnes respectueuses. Donc plutôt que de ghoster, parce qu'on a le droit, on peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire, et bien plutôt que de disparaître comme ça lâchement, sauvagement, pour que la personne se pose mille personnes de qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal dit, en vrai, envoyer hello, voilà, merci pour les échanges, j'ai pas le feeling que j'attendais, je te souhaite bonne continuation, et ça s'arrête, c'est littéralement, ça prend une seconde, et on pourrait le copier-coller partout, et on ne serait pas des ghosteurs et des ghosteuses. Et en réalité, cet apprentissage également, on l'a pas, parce que on est des cobayes, comme le dit très bien Justine.
Mais on revient aussi sur le début de la conversation qu'on avait, où il y a les mots qui ne viennent pas aussi.
Eh ben,
on est d'accord. Hein.
Les mots ne viennent pas parce qu'il y a un moment, on n'a pas. Vas-y, Marie.
Les mots ne viennent pas, et je pense que il y a aussi de la lâcheté. Honnêtement, c'est un et je pense qu'en grandissant, ça s'arrête, mais que quand on a 20 ans, qu'on commence nos relations, et parce que parfois c'est les hommes qui sont un peu plus lâches et qui peut-être ghostent un petit peu plus.
Un peu moins empathique.
Un peu moins empathique, et du coup, c'est fastoche de supprimer, de bloquer le numéro, et que soyez pas lâches, quoi. On envoie ce message.
Marie, est-ce que c'est pas lié aussi au fait que avec les applis de rencontre, les rencontres sont très nombreuses, en tout cas peuvent l'être. Donc en vrai, on peut très bien ghoster quelqu'un parce qu'on sait qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre assez rapidement.
C'est là que je pense tout ce truc de cobaye, de machin, il faut un peu d'éducation sur, oui, il y a une possibilité de nombreuses rencontres, mais du coup, il va falloir y mettre la même considération à chaque fois. Et il y a un truc redondant, relou, de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, comment tu vas, et machin. Et c'est pareil avec l'inverse, quoi, ouais. Avec tout ce qui est c'est fini ou on continue.
Charline Vermont.
Ouais, j'ai envie de dire, je rebondis sur l'éducation là-dessus, j'ai envie de faire un coucou à ma commune de 800 000 personnes, on a lancé le trend des queens. C'est-à-dire, en fait, on se heurte forcément à des gens qui nous ghostent, même parfois après une nuit, et qui disparaissent du jour au lendemain comme si on n'avait qu'un bout de viande. Aujourd'hui, dans ma communauté, on les retrouve. Et on leur rentre dedans pour leur expliquer que c'est absolument pas possible de faire ça à quelque humain que ce soit. Et donc j'ai envie de dire, tant pis, on va faire de l'éducation aujourd'hui, on ne laisse plus rien passer. Si on laisse passer, ça veut dire que c'est OK de le faire.
Ouais. Justine
Oui, j'avais juste envie de rebondir, parce que effectivement, la question du ghosting aussi, c'est revenu pas mal dans mes témoignages.
Beaucoup, hein, vous en parlez beaucoup. Hein,
oui, ouais. Notamment lié aux applications de rencontres, parce que c'est vrai qu'ils ont la sensation en fait, d'avoir une infinité de possibilités en fait entre leurs mains à travers le téléphone portable, et en fait en réalité ils m'ont parlé aussi d'une grande solitude, parce qu'ils me parlaient en fait de tous ces messages un peu vains où voilà on s'échange quelques banalités, finalement ça mène pas à grand chose, même des fois ça mène pas à des vraies rencontres. C'est ça aussi le paradoxe, c'est qu'ils ont une infinie de possibilités pour rentrer en contact, en connexion, en communication, et finalement encore une fois les mots ils ne parlent pas, en fait ils sont pas là, et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Moi j'avais beaucoup de jeunes filles qui me disaient effectivement cette sensation des fois d'avoir été utilisée après un date Tinder ou d'une autre application. Ils passent une soirée ensemble, il se passe ce qui se passe, et puis le lendemain, plus rien. Et ça, ça laisse un sentiment de grande solitude, en fait, à ces jeunes.
Mais alors, ce que j'entends derrière ces mots-là, et qui est les derniers mots de votre livre aussi, c'est que finalement, cette génération Z, comme toutes les autres générations, elle recherche quand même l'amour, l'image du couple... C'est encore une image qui est assez présente et qu'on recherche, qu'on a envie de monogamie, etc. C'est ça.
En réalité, oui, c'est assez surprenant parce que comme ils ont énormément maintenant de nouveaux mots pour parler des relations, donc là, ça va être... il y a beaucoup d'anglicismes qui sont apparus, mais donc voilà, il y a les sex friends, situationship, qui est donc un entre-deux entre le couple et une relation plus amicale, par exemple. C'est un entre-deux un peu flou. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était souvent la relation la plus partagée. On parlait beaucoup de ce type de relation-là. En fait, le fait que finalement, l'univers amoureux, il est aussi fluide, éphémère aussi. Les relations sont très éphémères entre 20 et 30 ans. Et bien en fait, ils ont une frustration de ce qu'ils n'ont pas finalement. Les jeunes, ils sont comme tout le monde, ils veulent ce qu'ils n'ont pas. Et donc, ils idéalisent le couple monogame en fait, à plus de 80%. Et donc, ça, c'est vrai que c'est marquant parce que c'est pas forcément peut-être ce que penseraient les générations antérieures sur ces jeunes.
Charline Vermont, en fait, quand on vous entend, on comprend aussi que de parler d'estime de soi, de confiance en soi, de lâcher prise, ce sont des mots déterminants, des expressions déterminantes quand on parle de sexualité.
Mais et quelle que soit la génération, on est bien d'accord. Effectivement, c'est juste que ces jeunes, c'est quand même beaucoup plus dur de se construire quand on est jeune, quand on subit les violences dont on parlait tout à l'heure, quand on a l'impression que d'autres ont accès à des choses auxquelles on aspire. Mais effectivement, je rejoins Justine, et c'est l'enquête Envie menée par l'INED qui dit qu'il y a encore effectivement ce fantasme d'un couple pour 80% des jeunes.
Marie de Breuer, j'aimerais bien qu'on finisse l'émission en vous demandant de lire quelques phrases de votre livre qui résument, je trouve, en grande partie notre conversation.
Oui, alors, je commence à lire. C'est des images de moi, Je rêve d'être sereine, apaisée, de vivre tout plein de relations chouettes, des relations saines dans lesquelles j'arrive à parler, à lâcher prise, à prendre du plaisir et à être écoutée. Des relations où on construit des trucs, des relations où on construit rien mais on mange des pâtes. Je rêve de cette sensation de calme dans le bide, cette fameuse boule au ventre qui est là depuis des années, qui s'en va enfin et laisse place à des petits picotements agréables.
Merci beaucoup. On ne peut que souhaiter des petits picotements à cette génération Z. Sachez que les générations précédentes ont connu les mêmes petits picotements. Merci Julien Bisson. Merci beaucoup. On vous retrouve aux côtés d'Ali Rebéi dans quelques jours. Et merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Vos trois livres sont d'utilité publique à mon sens. J'aurais adoré pouvoir les lire plus jeunes. Toutes les références sont indiquées sur la page de l'émission. Il suffit d'aller sur l'application de Radio France.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.